Non! Mais comment ça, non? Attends, tu mettais bien le suppositoire quand t'étais petite?
Ah, je sais, je téléphonais avec un coupe-ongle, mais c'est parce que parfois l'appel il coupe.
On a fini là?
Ouais, pardon.
Cool, t'arrêtes lui?
Excuse-moi.
Mais qu'est-ce que tu fous là?
Non, mais c'est parce que je suis heureux d'être là. Ouais. Avec vous, mes chers Parsekiens et Parsekiennes. Parsekiens, CK, hein? Bah oui, mais sinon, bah, juste un C, ça fait Parsekiens et Parsekiennes. Ah, tu vois, même la bonne orthographe, c'est de l'à peu près. Aujourd'hui, mes amis, à l'approche de Noël, nous allons parler d'un film événement. Un film qui a beaucoup fait parler. Un film qui, pour la première fois, réunit les plus grandes stars du cinéma d'action. Un film qui est un hommage, une déclaration d'amour à l'âge d'or du cinéma d'action hollywoodien. Un film qui est un véritable cadeau pour tous les fans à travers le monde. Un film qui est une petite merde.
Une petite merde bien, bien pourrie.
Non, non, attendez, attendez. Le film en lui-même est quand même une petite merde.
Il y a quand même un arrière-goût de caca.
Mais il n'empêche qu'on passe tout de même un excellent moment. Et je vais en profiter pour vous dire deux choses. D'abord, restez bien sur la chaîne jusqu'à Noël parce qu'il y a des vidéos tous les dimanches. Et surtout, soyez là parce que... 297 000 abonnés, les gars. Eh, bientôt les 300, là. Truc de ouf, de malade mental. Allez, allez. Il s'agirait de les atteindre avant la fin de l'année, quand même.
Ça sera plus sympa.
Bah oui, c'est clair. Alors, on prend son petit clavier, on prend sa petite souris, on prend son petit doigt sur son écran et on va vite cliquer sur le bouton s'abonner, là. Et vous ferez un heureux. Si vous voulez faire un cadeau de Noël gratuit à votre youtubeur préféré, you know what to do. Du fond du cœur, merci. Je vous aime. Imaginez que vous devez partir avec des potes pour une mission de la plus haute importance. Ramener le maximum de conneries possibles du Japon. Ah, il va falloir des bras et des valises, là. Et il va aussi falloir arriver à baragouiner quelques mots sur place avec ces sauvages.
C'est japonais.
C'est japonais, oui. Alors, mes petits potes, savez-vous 1. Planter des choux. Et 2. Quelle est la manière, on va dire une des meilleures manières d'apprendre une langue. La réponse est Rosetta Stone, qui est le partenaire de cette vidéo. Si vous me connaissez un petit peu, vous connaissez peut-être ma passion pour la langue japonaise, pour la culture japonaise, et plus particulièrement pour les mangas et l'animation japonaise. Il y a deux trucs dans la vie qui peuvent me foutre les frissons de malade à en chialer, à en hurler de puissance tellement je kiffe le truc, c'est le basket et les animés japonais. Et c'est pour ça qu'elle est sur place, c'était un rêve que j'ai enfin réalisé il y a un mois avec PH et nos compagnes et nos potes. Et je voulais absolument apprendre quelques mots, quelques phrases pour pouvoir échanger un petit peu avec les gens là-bas. C'est pour ça que j'ai pris Rosetta Stone et ce que j'ai kiffé dans l'apprentissage, c'est l'immersion totale dans la langue. Il y a 24 langues que vous pouvez apprendre et moi, bah, j'ai choisi le japonais. Nihongo wa suwarashi. Vous avez plein de modules que vous pouvez suivre sur des thèmes différents avec plein de leçons, il y a des images, il y a de l'audio, faut écouter, faut lire, faut parler. C'est hyper efficace pour progresser. Et d'ailleurs, la question c'est, est-ce que j'ai réussi un petit peu à progresser depuis le temps que j'en fais? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Transportons-nous dans les méandres du temps et de l'espace et des mystères des écrans. Transportons-nous. Bon, mais le plan du Japon, là...
Ok.
Voilà, donc on est dans le quartier de Ueno, à Tokyo. Et on va voir si grâce à Rosetta Stone, je peux apprendre quelques mots, quelques phrases, pour arriver, bah, ne serait-ce qu'à communiquer, je sais pas, marchander un peu les prix, toi, dans les restos, quoi. Parce que t'as vite fait, quand même, de te gourer et de commander un peu n'importe quoi. On va relever le défi. Alors, vous voyez, là, je suis dans un petit resto avec mon pote Mehdi, hein, qui monte certaines de mes vidéos, d'ailleurs, maintenant. Hein. C'est un de mes nouveaux monteurs. Si vous trouvez que le montage est un petit peu moins bon depuis quelques temps, bah, c'est de sa faute. Crah, là, toujours les mêmes. Et là, pour comprendre le menu, bah, c'est quand même pas facile. Sorewa hijoni muzukashi. Mais à la fin, on a quand même très bien mangé, et grâce au petit cours que j'ai suivi sur Rosetta Stone, eh ben, j'ai pu remercier le restaurateur. Ça, c'est typiquement le genre de phrase qu'on peut apprendre en parcourant les leçons. Et c'est ça que je kiffe justement avec toutes ces petites leçons qui durent quelques minutes, tu vois, c'est hyper pratique, et puis tu peux les refaire au fur et à mesure jusqu'à ce que tu les connaisses par cœur, et au final, bah, tu fais le lien entre différents mots, différentes phrases, et t'apprends même quasiment sans t'en rendre compte, et tu peux au final peut-être même parler avec n'importe qui au Japon, t'as. C'est accessible sur smartphone ou sur ordinateur, et grâce au lien dans la description, vous aurez choix entre deux abonnements, l'abonnement à vie pour les 25 langues pour 149€, ça fait 60% de réduction. Sugoi! Ou l'abonnement à vie pour une seule langue pour 99€, ce qui donne aussi 60% de réduction. Subarashi! Et voilà, merci beaucoup Rosetta Stone.
Arigato gozaimasu.
Avant de commencer, je voudrais faire quelque chose que je ne fais pratiquement jamais, honte sur moi, je devrais le faire beaucoup plus. Remercier tous les tipeurs, principalement sur Tipeee. Draki, Romain Jaquel, Ubald, Nikux, Olivier Dibault, Calamut, Sébastien, JF Bejo et tous les autres. J'en cite que quelques-uns, hein, les derniers en date en fait, hein, vous imaginez bien que je peux pas citer tout le monde, mais je remercie tout le monde. Votre aide est précieuse, votre générosité vous honore. Grâce à vous, cette chaîne avance chaque jour un peu plus. Chaque tip est un encouragement puissant, autant qu'une bonne claque sur le cul. Votre geste compte plus que vous ne l'imaginez. Pour votre confiance et votre fidélité. The Expendables, yeah, motherfucker!
Putain, si on peut plus dire Yeah, motherfucker sur ce film-là, on peut plus le dire sur aucun film.
Ce film est un cadeau du ciel. Les dieux du cinéma d'action nous ont honorés. Ils ont entendu nos prières et y ont répondu de la meilleure des manières. The Expendables, ce sont tout simplement les Avengers du cinéma d'action réunis pour notre plus grand plaisir. Et en même temps, pas totalement non plus. C'est-à-dire que oui, mais non. En fait, plus que du premier film, c'est surtout de toute la saga dont il s'agit. Oui, parce que The Expendables, les sacrifiés en français, hein, ceux qu'on envoie au front, hein, et qu'on sacrifie sans l'ombre d'un remords. C'est une saga de 4 films, commencée en 2010 et terminée en 2023. Et je dis terminée, mais on sait rien, hein, on n'est jamais à l'abri d'une autre suite. Hein. Regardez Fast and Furious, on ne sait même plus à combien on en est. Hein. Et par rapport à cette saga, vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est surtout en fait le 2, hein, qui est vraiment le meilleur. Vu le casting 10 étoiles, et le 3, qui est juste derrière, avec un super casting aussi.
Ouais, il y a toute la bande.
Le 1 est, je dirais, tout simplement une introduction à la franchise, qui est un petit peu le principe d'un premier volet. Et le 4, j'ai pas vu, et il paraît que c'est une merde. Dans le 1, Sylvester Stallone, qui ne réalisera que le premier film, réunit pour la première fois à l'écran 3 des plus grandes légendes du cinéma d'action américain. Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, et lui-même, mais pour une seule petite scène, avec que du dialogue et pas un pet d'action. On n'aurait pas d'idée que même si c'est très sympa, c'est quand même un petit peu décevant, hein, pour le coup. Dans le 2, en revanche, ces 3 gentlemen seront à nouveau réunis, et cette fois, ils prendront les armes pour aller niquer de l'Albanie. Parce que l'Albanie, tout le monde s'en fout. Vous connaissez la capitale de l'Albanie ?
Non.
Bah voilà. Sylvester Stallone s'entoure aussi de Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren et Mickey Rourke, que je ne vous ferai pas l'affront de vous présenter. Et déjà, avec ces 7 noms, on comprend rapidement que, si vous voulez, l'histoire et les personnages, c'est pas ce qui va être le plus travaillé dans le film. Je pense pas qu'ils aient passé beaucoup de temps sur l'écriture des dialogues et du scénario. Ils ont dû passer beaucoup plus de temps à négocier le salaire des différents acteurs. Et surtout celui de Bruce Willis qui s'est pas fait chier, hein, niveau du cachet. C'est d'ailleurs pour ça qu'il sera dans le 2, mais pas dans le 3. Il sera remplacé par son boss dans l'histoire, Harrison Ford, parce qu'il voulait un trop gros chèque. Et enfin, Stallone s'entoure également d'acteurs sportifs connus et reconnus dans leurs disciplines respectives. Randy Couture, un combattant de lutte gréco-romaine et de MMA. Terry Crews, un ancien footballeur américain, bien vénère aussi. Et du côté des méchants, on retrouve Stone Cold Steve Austin, une légende absolue du catch américain. Certains le placent même au-dessus d'Hulk Hogan. Je sais pas si vous vous rendez compte. Un jour, il faudra que je fasse une vidéo sur le catch américain, là, tu sais, la WWE, là. J'y connais absolument rien, mais franchement, il y a moyen de se marier. Et Eric Robert, en méchant avec qui Stallone avait déjà joué dans L'Expert. C'est assez marrant d'ailleurs d'essayer de faire des liens entre tous les acteurs là, ça peut vraiment être un bon jeu. Parce qu'ils ont tous joué les uns avec les autres dans différents films au cours de leur carrière. Je vais pas vous faire la liste parce que sinon ce serait trop long, mais si on faisait un graphique avec tous les noms des acteurs, faudrait mettre des traits dans tous les sens, tellement les mecs ils ont joué les uns avec les autres dans gavé de films. C'est donc une sacrée bande de copains qui se retrouvent. Et on va pas se mentir, c'est bien là le seul intérêt du film, voir tous ces acteurs ensemble. C'est pas ce qu'ils font dans le film qui est important. La mission qu'ils doivent remplir, c'est un prétexte évidemment. Non, là le kiff, c'est simple. Simplement de les voir ensemble dans une seule et même scène. J'en veux pour preuve la déjà mythique scène de la chapelle. Quand tu vois ces 3 gars-là pour la première fois réunis au cinéma, là, tu bandes. T'as le kiki tout dur. Et t'as un sourire qui reste bloqué jusqu'aux oreilles, jusqu'à la fin de la scène, tu peux pas l'enlever. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. Et il est également bon de préciser que le casting qu'on a là, on pourrait avoir l'impression que tous les rôles ont été écrits spécifiquement pour les acteurs qu'on voit, alors que pas du tout en fait.
Ah oui ?
Bah ouais, tu savais pas ça toi. La moitié des rôles qu'on voit là ont d'abord été proposés à d'autres acteurs qui ont refusé, et ces rôles ont atterri dans les mains des acteurs qu'on voit là. Gunner, joué par Dolph Lundgren, au départ il devait être joué par Van Damme. Mais il a refusé parce qu'il voulait pas perdre un combat contre Jet Li. Sacré Jean-Claude. Ah là là. Mais ça, tu vois, ça c'est exactement pour ça qu'on te kiffe. Et du coup, JC, il est venu pour le 2 et c'est d'ailleurs le grand méchant. Il s'appelle Jean Vilain. Jean Vilain, sans déconner. Est-ce qu'on peut faire plus nom français méchant que ce nom-là ? Monroe, le méchant joué par Eric Roberts, ils avaient d'abord demandé à Robert De Niro, Al Pacino, Kurt Russell. Et qu'est-ce qui s'est passé ?
Ils ont dit non.
Bah, ma poule. Steven Seagal devait faire un caméo aussi, mais ça s'est pas fait. Le rôle de Terry Crews au départ, ça devait être Wesley Snipes, ensuite Forest Whitaker, ensuite 50 Cent, mais ça n'a pas été possible non plus. Et ce qui est marrant, c'est que justement, on retrouve plein d'acteurs qui devaient être dans le 1 mais qui n'ont pas pu, qui en fait arrivent pour les autres suites. Wesley Snipes joue dans le 3 et 50 Cent dans le 4. Chuck Norris qui devait jouer dans le 1 aussi, mais il a refusé, et bah du coup on le voit dans le 2. Enfin bref, cette saga est un petit peu, si vous voulez, une ode à la joie, à la convivialité, à la tendresse et à la vie. Allez, on lance le film. Et nous voilà direct en Somalie sur un cargo avec des sortes de terroristes, là on sait pas trop. De toute façon, ça peut pas être autre chose. Et ils ont un paquet d'otages avec eux. J'aime beaucoup la vision que nous donne Hollywood de la Somalie et des Somaliens. The Expendables, Captain Phillips, Black Hawk Down, et d'autres films encore mais moins connus, ça nous donne toujours envie d'aller là-bas. On a vraiment le sentiment que tout se passera bien. Bon, moi j'ai rien à dire parce que j'habite à Marseille. Mais c'est clair que la Somalie, c'est pas le meilleur endroit pour aller passer une petite quinzaine. Quand tu tapes voyage en Somalie sur Google, tu tombes pas du tout sur les sites d'agence ou le guide du routard. Hein. Tu tombes sur le ministère des Affaires étrangères, CNN, et des sites comme Conseil et Avertissement pour la Somalie. Et déjà, le premier conseil, c'est prenez de la bouffe. Ouais, mais c'est con parce que je suis certain que ça va être un très joli pays. Et là, le manager des terroristes, il va s'adresser au peuple.
Nous avons ces hommes depuis trop longtemps.
Vous avez vu, il imite super bien Batman.
Non mais ça, c'est parce qu'il est... Somalien.
Je vois pas le rapport.
Bah, Mogadiscio, c'est un petit peu comme Gotham City.
Le gars dit qu'il va tuer les otages parce qu'on lui a pas livré ses 72 vierges. Et là, ils sont cernés.
T'es sûr pour la blague des 72 vierges, là?
Mais bien sûr, attendez,
ma force, c'est la farce. Maintenant, gaffe si ça se corse.
Pas facile, celle-là. Si vous l'avez, je vous considérerais comme des connaisseurs.
Barney et sa team sont déjà là. Ils encerclent les gars et leur disent de lâcher les otages. Mais les autres, tout de suite, bah, qu'est-ce qu'ils leur répondent? Eh oh, on fait pas de mal. On est une bande de jeunes, on se fend la gueule.
Attends, il a raison, et on s'amuse comme on peut. Hein.
Mais Gunner, elle en a rien à foutre. Et
ah bah dites donc, il a le sang chaud lui. Il est pas là pour déconner.
C'est la bonne méthode ça.
Ah oui, mais du coup c'est parti à couvert. Ça tire dans tous les coins.
Pure expression.
Et Barney et ses gars désinguent tout le monde en moins de temps qu'il faut pour le dire.
Ce qui n'est techniquement pas vrai. Hein. Ils ont mis plus de temps à tuer tout le monde que moi j'ai mis à dire la phrase.
Et déjà on se rend compte que Gunner il est un peu taré parce qu'il a vraiment des méthodes vénères. C'est-à-dire que lui, tuer des terroristes, ça lui suffit pas. Il veut carrément en pendre un. Ouais.
Alors, je sais pas ce que vous en pensez, hein. Après, c'est un petit peu à l'appréciation de chacun. Hein. Mais c'est vrai que en matière de décoration, il a des goûts un petit peu particuliers.
Barney lui dit d'arrêter parce que ça se fait pas, mais Gunner en a rien à foutre et il y va. Mais vous savez, je vais vous dire un truc. Les Suédois, c'est ça. Moi, j'y suis allé en Suède.
C'est vrai?
Non. Par contre, je suis allé en Norvège.
Ils ont l'air sympas comme ça. Mais en fait, c'est tous des enfoirés. Y'a qu'à les regarder, c'est écrit sur eux.
Non, mais eux, c'est des Norvégiens.
Oh, ouais, On dit toujours que les Chinois et les Japonais se ressemblent, mais les Scandinaves, c'est encore pire.
Je sais pas trop où je vais avec cette vidéo, là, pour l'instant, là. C'est la fin de l'année, y'a plus trop de règles, là.
Je sais même pas bien si on a déjà eu, d'ailleurs.
Et pam, Yin Yang vient me donner une correction. Mais Gunner prend rapidement le dessus.
En même temps, t'en as un qui fait 1m68 et l'autre 1m96. C'est un petit peu RN contre le titan colossal, voyez-vous.
Ah, et super référence, bah oui.
Allez, je me félicite moi-même. Parce que personne d'autre ne le fera.
Barney arrive et pointe Gunner. Qui range son couteau. On sent déjà qu'il y a un petit peu de tension dans l'équipe.
Eh oui, mais ça, c'est le problème aussi. C'est dans un groupe, t'en as toujours un qui n'écoute personne et qui fait chier tout le monde avec ses méthodes de merde. Chez nous, on en a un, il s'appelle Arnaud.
Félicitations, ma poule. 1 million d'abonnés. T'as quand même une sacrée grande famille.
Il doit avoir d'origine chinoise, lui.
Allez, let's go home, baby!
On boit un petit coup au volant, mais c'est pas grave, c'est un avion. On a le droit de piloter un avion en buvant de l'alcool.
Oui. Ah,
bah, si c'est Thomas Pesquet qui le dit. Et c'est vrai que PH, c'est un abruti?
Oui.
Ah, je le savais, je vous le dis, je le savais.
Et c'est vrai que moi, je suis le meilleur youtubeur du monde?
Non.
C'est bon, arrêtez, là. Franchement, je t'aurais cru plus sympa, quoi. Je croyais qu'on était potes.
Non.
Ok, bon, bah non, bah, c'est bon, j'ai compris. Je suis qu'une merde, quoi. Faut que j'arrête la chaîne.
Sans doute.
Jamais. Plutôt crevé. Et là, Lee Christmas arrive chez sa nana, qui a l'air d'être assez étonnée de le voir. En plus, elle est en petite tenue. Et l'autre abruti, il voit rien venir.
Pour lui, tout va bien, elle attendait bien sagement, alors que ça fait un mois qu'il est pas rentré, quoi.
Bah c'est pas beaucoup, un mois.
Pour une femme, si.
Elle peut pas attendre si longtemps. D'ailleurs, elle lui dit, si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs. Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin. Je n'ai pas la vertu des femmes de marin.
Quand reviendras-tu? Au moins le sais-tu.
Bah, je suis là, bordel. Bah oui, mais c'est trop tard, pauvre gland, là. Tu peux te la mettre sur l'oreille maintenant.
Eh oui, c'est trop tard.
Eh bah oui, mais qui va à la chasse faire sa place? Elle l'a déjà remplacé.
Bah oui, mais tu croyais quoi, toi, espèce de hormal?
Et en même temps, elle est triste parce qu'elle l'aimait.
T'es un mec bien, je t'aime et tout, mais.
Bien sûr, tu l'aimes, oui. C'est parce que tu disais quand Claude il te bouffait le cul, là.
J'ai raison. Ah, alors, et là le type il arrive, il a pas l'air commode, il a l'air plutôt humain.
Dis donc, mais c'est un festival.
Ouais, écoute, on fait ce qu'on peut.
Excellent, dis donc.
L'année prochaine, je vous promets que ce sera mieux.
Et là, Lee, il se retient de défoncer l'autocar, et il préfère partir plutôt que d'entendre ça plutôt que d'être sourd.
Et voilà comment briser le cœur d'un homme.
Lee Christmas n'aura pas son cadeau de Noël. Pas de cadeau dans le sac cadeau. L'homme en rouge n'a rien pour lui, car ce soir, son cœur saigne, son amour l'a remplacé.
Et ça, ça fait mal.
Il rejoint Barney qui finit son tatouage chez Tools, un ancien collègue avec qui ils ont fait des 400 coups. Ah, ils ont arrosé la zone comme jamais, là.
C'était où qu'ils sont allés?
C'était au quartier rouge d'Amsterdam.
Et là, Tools, il reçoit un coup de fil qui a l'air d'être un nouveau plan. Et on comprend que ça a l'air d'être un petit peu lui qui est à la manœuvre de tout ça. Mickey Rourke, qui était disponible seulement 48 heures pour le tournage parce qu'il tournait en même temps Iron Man 2. C'est la raison pour laquelle il a exactement la même coiffure dans les deux films. On se retrouve maintenant dans une villa dans une île dans le golfe du Mexique.
Et là, bah, c'est comme en Somalie ou à Marseille.
C'est un endroit où peu importe où t'atterris, tu peux mourir en 15 secondes. Il y a de la corruption partout, ils connaissent que ça là-bas, hein. C'est infernal. Et ce sont les plus hauts gradés qui tiennent les ficelles.
Ha! Heureusement que c'est pas comme ça chez nous. Hein. Heureusement.
On voit un général qui va menacer des pauvres gens qui vont même en tuer un. Ah, c'est un autre type en costard derrière qui a tué le monsieur.
Mais qui peut donc bien être cet homme?
Mystère!
En tout cas, il a un sacré molosse avec lui. À mon avis, lui, il est soit coiffeur, soit fleuriste. Et là, on va maintenant arriver à l'une des meilleures scènes du film. Clairement, j'ai pas peur de le dire. Barney rencontre un type qui se fait appeler Monsieur Chappelle. En VO, c'est Monsieur Church. Et Monsieur Church, c'est Bruce Willis. Alors déjà, Bruce Willis et Sylvester Stallone dans la même pièce, ça vend pas mal de rêves. Mais ajoutez à cela Monsieur Arnold Schwarzenegger. Trench dans le film, le rival de Barney Ross. Alors là, les gars, c'est un fantasme qui se réalise sous nos yeux. Vous avez là la plus grosse concentration de charisme et de testostérone de l'histoire du cinéma. Et encore, vous avez pas vu le 2. Parce que dans le 2, il y a Van Damme et Chuck Norris en plus. Et moi, je peux vous dire que le jour où j'ai vu cette scène au cinéma, ah ben, heureusement que j'avais ramené un caleçon de rechange.
Qu'est-ce que mon plus vieil ennemi fait ici ? Vos deux noms sont arrivés en haut de la liste.
Et là, ce qui est énorme aussi, et ce qui fait irrémédiablement mal au cœur, vous savez comme je suis, vous me connaissez maintenant. Je suis un être empli de paradoxes. Parce que d'un côté, je passe mon temps à me moquer de la VF, mais de l'autre, je m'agenouillerai toujours devant les plus grands noms de l'histoire du doublage français. Et pour l'occasion, on a la chance, l'honneur et le plaisir d'entendre Alain Dorval, Patrick Poivet et Daniel Beretta, les trois voix officielles de Stallone, Schwarzy et Bruce Willis. Et ces trois grands hommes nous ont aujourd'hui quittés. Et il ne faudra jamais les oublier, eux et tous les autres, pour toutes les émotions qu'ils nous ont apportées durant toutes ces années. Alors je peux vous dire que cette scène-là, en VF, c'est du miel pour les oreilles. C'est de l'or. Jamais plus on aura la chance d'avoir ce trio réuni. Et vous avez compris que je parle à la fois de ces trois monstres du cinéma américain et de ces trois monstres du doublage français. Messieurs, que Dieu vous garde. Et donc là, Ross et Trench se chahutent un peu, c'est gentil, c'est mignon. Sauf qu'à un moment donné, ils sont aussi là pour parler business. Monsieur Church leur propose une mission sur l'île de Villena qu'on a vu tout à l'heure pour aller récupérer des ressources. Mais Trench dit qu'il connaît l'endroit et qu'il faudrait une armée pour arriver à déloger le général.
Faut être idiot pour accepter cette mission.
Combien ?
Ah, qu'est-ce que je disais ?
Toujours ces petits pics un petit peu sympas, là. Et forcément, on peut pas s'empêcher d'y voir une petite double lecture amusante sur les carrières cinématographiques de ces deux amis rivaux. Ces deux Sangoku et Vegeta. Mais qui serait Sangoku et qui serait Vegeta ? Moi, je dirais que Stallone, ce serait Sangoku, et Schwarzy, ce serait Vegeta. Et Bruce Willis, ce serait Yamcha.
Tu n'es vraiment pas très sympa.
Bah, je déconne, avec Bruce Willis. Et Bruce Willis, évidemment, c'est une légende aussi. Dois-je vous rappeler que mon film préféré est Armageddon ? Non, Bruce Willis, ce serait Sangohan, tu vois, je sais pas, ou Trunks, ou Piccolo. En tout cas, les films dans lesquels l'un fait référence à l'autre sont nombreux. Dans Last Action Hero, bien sûr, où Schwarzy voit une pancarte dans un vidéoclub avec Stallone en Terminator. Dans Demolition Man, où Sandra Bullock dit à Stallone que Schwarzy est devenu président des États-Unis. J'ai fait une vidéo sur Demolition Man, évidemment, allez la voir. C'est la deuxième meilleure vidéo de la chaîne.
C'est laquelle la première ?
Bah, c'est celle-là. Dans Jumeaux, Schwarzy passe devant une affiche de Rambo et se moque de Stallone. Dans True Lies, quand Jamie Lee Curtis découvre que son mari est un agent secret, elle dit :
J'ai épousé Rambo.
Ça va jamais plus loin, évidemment, mais c'est quand même sympa. Et donc Trench, il dit qu'il n'est pas intéressé.
Je suis un peu surbooké, alors refiler ce job à mon ami car il adore s'éclater dans la jungle, pas vrai ?
Encore une référence à Rambo. Mais d'ailleurs, Trench, pourquoi t'es venu si t'es occupé ? C'est complètement con. Le mec, il vient, mais il sait qu'il prendra pas le taf parce qu'il est surbooké. En fait, il est juste venu là pour prendre son chèque.
Ignoble bâtard !
D'ailleurs, vous savez que Schwarzenegger est un nom qui a une double lecture. Schwarz, ça veut dire noir en allemand. Et si vous le dites à l'américaine, bah, ça se prononce black. Alors maintenant, remplacez Schwarz de Schwarzenegger par black et dites-le avec l'accent américain. Oh, bande de salauds, hein ?
Quelle indignité.
Et c'est donc Barney Ross qui accepte la mission. Mais pas avant que Chappelle lui mette un bon petit coup de pression. En mode, si on vous paie et que vous faites pas le taf, on vous découpera en morceaux. Et encore une fois, c'est assez ouf de voir Bruce Willis menacer Stallone comme ça. Un peu comme si Piccolo menaçait Sangoku. Mais encore une fois, Bruce Willis, je dirais, il a tellement de charisme, il a tellement de gueule, que tu vois, ça passe sans problème. Barney rentre chez lui et trouve Gunnar qui veut réintégrer l'équipe. Mais il va lui dire que c'est pas possible.
C'est pas possible.
C'est quoi, c'est le voix de merde, là ?
Non, mais c'est parce que j'ai voulu essayer quelque chose.
Non, mais non, essaie pas. N'essaie rien, quand tu veux essayer un truc, tu me demandes et c'est moi qui verrai.
Tu peux essayer quelque chose ?
Non.
Je ne peux plus te faire confiance.
Eh ouais, mais l'autre, il est instable, tu vois. Hein ? Quand t'as une montagne comme ça qui est imprévisible, c'est pas facile de la contrôler. Hein. Et puis Stallone, si vous voyez, il a vu ce que ça pouvait donner dans Rocky IV, et ça l'a un peu refroidi. Bah attends, l'autre, il a quand même tué son meilleur pote. Hein. Donc Gunner est pas content, et il s'en va. Barney présente la mission à sa team. Alors sur le papier, c'est pas compliqué, il y a 200 soldats, et eux, ils sont 5.
4 hommes et demi.
Voilà, ouais, très bien, non, mais encore une vanne raciste. Et eux, on leur dit rien, par exemple. Voilà. Eux, ils ont le droit et pas moi. Y a pas de justice dans ce bas monde. Bon, petite scène de dialogue, là, ça donne un petit peu de temps d'écran à Jet Li, Terry Crews et Randy Couture. Il parle de son oreille dégueulasse, hein, qui est le résultat d'une blessure très courante chez les catcheurs. Donc en fait, il explique dans le film la vraie raison pour laquelle il a eu ça à l'oreille. Et ça, c'est marrant parce que tous ces petits trucs-là, là, ces sortes de références à la vraie vie, tu vois, comme cette histoire de l'oreille, ou alors les histoires avec Stallone et Schwarzy, et même dans les autres films avec Chuck Norris et Stallone qui fait un Chuck Norris fact, ou même encore Bruce Willis et Schwarzy qui échangent leurs répliques les plus connues.
I'll be back.
Tout ça, ça donne au film Expendables un côté un petit peu méta. Le film a sa propre histoire, mais fait aussi référence à la réalité extérieure à la fiction et il joue avec ça. C'est ce qu'on appelle une œuvre qui a conscience de sa propre existence. C'est un film qui sait qu'il en est un.
Ouais, bah ça, pour du Stallone, c'est plutôt étonnant, non?
On s'attendait pas vraiment à ça.
Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je trouve ça plutôt louche.
Sur l'île, on comprend que le méchant américain, il est venu pour faire pousser de la coca.
Du caca?
La coca, pour produire de la cocaïne.
Ah, la coca.
Excusez-les.
Et d'ailleurs, Barney et Ellie sont venus en repérage et ils rencontrent leur contact, Sarah, qui se révèle être la fille du général. Comme par hasard!
Du coup, c'est un peu une traître, quoi.
Bah oui, elle trahit son père.
En même temps, l'autre, il tue des civils aussi, hein, donc bon, il trahit son peuple. Hein. En fait, c'est une pure famille de traîtres, ces Mexicains-là.
Encore pire que les Suédois, je sais même pas que c'était possible. Ils arrivent près de la villa, mais il y a des militaires qui les chopent. Et là, Barney et Ellie, ils vont pas les tuer tout de suite, ils vont essayer de négocier d'abord, ils vont essayer un petit peu de. Bah oui, d'entrer en négociation. Ah non, ils vont les tuer tout de suite, en fait.
Oui, non, c'est pas la peine de parler, non, ils tuent tout le monde.
Bah après, c'est quand même beaucoup plus rapide aussi.
Parce qu'on ne négocie pas avec les terroristes.
On ne négocie pas avec les terroristes.
Bon, maintenant, faut se tirer en vitesse, et ça va pas être mince à faire. Ils repartent à l'avion, mais Sarah veut rester sur place. Lee démarre, Barney court derrière et il s'accroche à la porte pendant que l'avion décolle tout doux.
Alors, vous avez vu ça? Non mais attends, mais ça c'est une casquette de vénère. Attends, Tom Cruise en Mission Impossible a rien inventé. Stallone il l'a fait avant. Hein.
Ha, quelle mauviette ce Tom Cruise. C'est vraiment une sale raclure de merde.
Attention à ce que tu vas dire.
Non mais déconne, c'est bon, vous savez très bien que Tom Cruise, moi je kiffe. Hein.
Mais bon, faut se calmer un peu des fois quand même. Barney monte dans l'avion, mais quand il voit que la fille n'est pas là, il retourne sur place. Ah, il veut la ramener. Non mais il y tient la petite.
Faut dire que bon... Ça fera un joli souvenir.
Ah bah elle est pas mal, hein, c'est une jolie pépée.
Et aussi, il est grave beau gosse, attends. Vous trouvez pas qu'ils iraient bien ensemble?
Non.
Non? Pourquoi?
Il est trop vieux.
Ah bah d'accord, bah tout de suite, oui, bah là, il peut rien. Bon bah tant pis, bah écoute, du coup il pourra se rattraper avec Lee Christmas.
Alors il va carrément sur le nez de l'avion pour aller choper le canon.
Tu te demandes pourquoi ils peuvent pas tirer depuis le cockpit?
Parce que c'est un avion de camouflage, s'ils se font contrôler, ils sont pas censés avoir des armes.
Bah oui, mais ils en ont quand même.
Bah oui, mais là, ils sont cachés.
Ouais, bah, ils sont pas très bien cachés.
Hein. Oh, ouais,
c'est où, doudou, là.
Et là c'est parti, on arrose la zone. Crevez tous, bande de chacals. C'est génial, ce film est un chef d'œuvre, je vous l'avais dit. Il lâche de l'essence, Lee enflamme tout. Et joyeux Noël! Ho ho ho! C'est ce qui s'appelle faire un grand ménage de printemps.
Et comme ça, au moins, ils sont sûrs d'être complètement passés inaperçus. Normalement, les autres, ils devraient même pas se souvenir de leur passage.
Ah bah attends!
Ces gars sont des professionnels, ce sont les meilleurs!
Oui, sauf que parmi les professionnels, il y a un traître. C'est Gunner, évidemment. Je vous avais dit, tu ne peux pas faire pire qu'un Suédois. Retenez bien ce que je vous dis. Les Suédois, c'est des gros
fils de pute.
Oh non, franchement, on n'est pas d'accord.
Faut pas exagérer. Dis donc, je trouve que les personnages des extraits de films prennent un petit peu trop de liberté dans cette vidéo. Vous ne trouvez pas? Lee retourne voir sa copine et il voit qu'elle a un beau bleu sur le visage. Et sans camis du maquillage partout, cette idiote. Ou alors elle a dû rentrer complètement bourrée de la veille et s'est pris une porte. Ah, je te jure, on peut pas la laisser 5 minutes sans surveillance.
Où il est?
Eh oui. C'est son mec qui la péfra, là, le salaud. Ah, j'en connais un qui veut passer un mauvais quart d'heure. Lee arrive sur le playground, le gars se tape un petit skatebike, c'est tout pot.
Pourquoi tu parles comme ça, là?
Ah, parce que, c'est pour faire plus cool. Aziz carré. Et Lee veut lui demander pourquoi il a frappé la fille. Non, je rigole, en fait, il va rien lui demander du tout, il va l'exploser direct. Faut dire que c'est vrai que Jason Statham n'est pas particulièrement réputé pour ses talents de médiateur. Hein. Si tu t'es embrouillé avec lui, faut te dépêcher de lui dire ton excuse tant que t'as toutes tes dents. Parce que dans 30 secondes, t'en auras plus beaucoup. Lee explose tous les mecs, il sort son couteau et paf. Putain, il a crevé dans le basket, bordel. Il est vraiment con, hein. Ah bah il va rebondir beaucoup moins bien maintenant, forcément. Et il se rebarre avec sa meuf. Mais donc, j'espère que les autres ils vont porter plainte, hein. Mais il a pas le droit de les frapper comme ça, attends, ils lui ont rien fait. Bon, par contre, on est tous d'accord pour dire que le gars, là, il n'a eu que ce qu'il méritait. Là, on a une petite scène sympa avec Barney et Tool. Tool raconte une histoire qui lui est arrivée, où dans son passé, il a dû se battre dans une arène avec un tigre. Il y avait même des mines plantées au sol avec des croix pour noter leur position. Et en même temps, il devait se battre contre un joueur NBA et un autre type belge. C'est complètement ouf, je vous jure, on dirait le début d'une blague.
Non mais c'est pas une blague, là, tu racontes la fin du film Double Team.
Ouais, mais si ça se trouve, ça se passe dans le même univers, tu vois. Regarde, Van Damme, il est bien dans Expendables 2. Si ça se trouve, c'est le gars de Double Team.
Je suis pas sûr, à l'appeler.
PH a fait une vidéo d'ailleurs hein, sur Double Team. Je vous en parle parce que je suis dedans. Hein. Bon, sinon, je vous en parlerai pas. Hein. Et Barney décide tout seul de retourner sur l'île pour aller chercher Sarah. Parce que l'autre jour, quand il y a été, elle l'a regardé. Et lui, il pense que il s'est passé quelque chose, tu vois. Il s'est dit que, voilà, peut-être qu'elle était pas indifférente, voilà. Il a envie d'aller voir. Bon, peut-être qu'il surinterprète un peu aussi. D'ailleurs, Yin Yang, il vient le voir. Comment tu traites, elle te kiffe? Bah, elle m'a dit que j'avais un beau t-shirt. Bah, mais ça veut rien dire, hein, tu t'enflammes un peu trop, là. Ah, bah, moi, je vais lui enflammer autre chose, t'as vu.
Oh là là, c'est pas possible.
C'est vraiment tout en subtilité. Hein. Comme cette chaîne, d'ailleurs. Et là, il tombe dans un piège, il y a des gars qui veulent les tuer. Et c'est pas n'importe quel gars. C'est Gunner, putain, cet enfoiré traître, il passe la troisième. Ah, lui, il a complètement
complètement pété les plombs. Mais ça, c'est son côté nazi, ça.
Mais qu'est-ce que tu racontes?
Oh, attends, c'est évident. Grand, musclé, blond aux yeux bleus. Attendez, est-ce que vous l'avez vu dans Rocky 4? Attends, mais laisse tomber, quoi. Je te jure, je crois que si Hitler avait vu le film, il serait mort d'un orgasme cinématographique. Barney arrive à piéger Gunner, qui sort de la bagnole, et c'est parti, baston contre Yin Yang. Dolph Lundgren contre Jet Li. Alors, messieurs, dames, s'il vous plaît, quel est le problème de cette scène? Parce qu'il y a un problème dans cette scène. Et c'est bien dommage, parce que sur le papier, c'est un duel extrêmement excitant. D'abord, ce sont deux légendes du cinéma d'action qui ne sont plus à leur prime. C'est un petit peu comme un duel aujourd'hui entre LeBron James et Stephen Curry. Ce fut un duel incroyable il y a quelques années, mais aujourd'hui leur prime est loin derrière eux. Surtout LeBron, parce que bon, Curry, il y en a encore un petit peu sous le capot. Ah bah t'as qu'à voir la finale des Jeux il y a 2 ans contre la France, mon pote. Dieu était déguisé en Stephen Curry ce soir-là. Mais bon, comme LeBron et Steph, pour Dolph et Jet, il y a encore des bons restes. Non, le véritable problème de cette scène, et qui est un problème, je dirais même un fléau qui s'est abattu sur tous les films d'action depuis ces 10 dernières années, c'est que la scène est surdécoupée. Le montage est 10 fois trop rapide, il y a trop de plans, on voit rien. C'est de la triche pour faire croire qu'il se passe plein de trucs, mais au final, c'est illisible. Il faut moins de plans, les gars, il faut montrer plus de choses. Demandez à Jackie Chan pourquoi ses films, c'était des petits chefs-d'œuvre en la matière. Parce que lui, non seulement il surdécoupait pas ses scènes, mais en plus, parfois, il montrait tous les coups et les cascades 2 fois ou 3 fois de suite. On voyait tout, on comprenait tout et on kiffait tout. Là, on kiffe aussi, mais on voit rien et c'est bien dommage. Bon, Yin dérouille Gunnar jusqu'à ce que ce dernier le chope et essaie de l'empaler sur une barre. Mais peu ! Barney le shoot dans l'épaule. Eh oui, Barney a été obligé de shooter son pote. Et avant de mourir, Gunnar lui souffle un dernier message à l'oreille. Et je l'ai quand même bien niqué, Apollo, hein. Ah, bâtard, j'y crois pas. C'est vraiment des salauds jusqu'au bout, les Suédois. Vraiment, mais comment j'irai jamais là-bas? Mais si c'est bien pas moyen, quoi. C'est un pays qui me dégoûte, mais rien que le fait de poncer aux gens qui sont là-bas, mais. C'est quoi ça?
Bah c'est les Suédoises, pourquoi?
Ah!
Tu veux toujours pas y aller, du coup?
Bah après, je sais pas, bon, on peut aller voir quand même sur place pour vérifier, pour être sûr. Allez, c'est parti, toute la team est là, ils partent en avion et ils arrivent sur place. Vous avez vu, ça va vite avec le montage, hein. Ouais, bah c'est pratique. Puis si on veut, on peut aller encore plus vite, hein. Stallone tue le chef, ils rentrent chez eux et fin! Ah bah, c'est sûr qu'on perd moins de temps quand c'est comme ça. Imagine s'ils avaient fait ça avec le Seigneur des Anneaux. Gandalf arrive, il file l'anneau à Frodon, il forme la team, il se sépare. Frodon jette l'anneau dans le volcan, les autres se fightent avec les orques, Sauron est détruit. Tout le monde se retrouve, Frodon se barre et fin. Et voilà, bah oui, mais t'es, avec le montage on peut tout faire. Je peux même vous le faire encore plus court avec Star Wars, regardez. Il y a un gamin qui devient méchant, il y a son fils qui arrive à le raisonner, mais il meurt. Et voilà, oui, mais c'est tout. Bah, je viens de vous faire économiser 12 heures de film, les gars. Ne me remerciez pas. Hein. Allez, les gars éliminent les gardes et placent des bombes partout. Ils tuent tout le monde, la scène dure 1 quart d'heure. Ils font ça dans l'ombre. Tu vois, ou derrière un plot, ou même hors champ, tu vois, des fois on ne voit carrément rien du tout. Franchement, quoi, non, mais. Sylvester, tu nous fais quoi là? T'as quand même pas réuni toutes ces stars pour ne rien montrer? Tu nous habitues à beaucoup mieux, enfin! Dans John Rambo, là, t'as pas hésité à montrer de l'hémoglobine! Alors vas-y, fais-toi plaisir et fais-nous plaisir là! T'as regarde, y'a 2 types qui viennent pour abuser de la fille là, l'occasion est merveilleuse! Il faut les faire souffrir, c'est ça le chien de la casse! Eh ma poule, à toi de jouer! Eh bah voilà, alors, tu vois quand tu veux! Eh nous on n'en demande pas plus, hein! C'est pour ça qu'on vient! Allez, il peut enfin sauver Sarah! Pourquoi t'es revenu? Bah je voulais savoir s'il y avait moyen parce que tu m'as dit que j'avais un beau t-shirt! Ah il perd pas le nord le Barney! Hein. Lui, il a un projet, c'est très clair dans sa tête! C'est pas vraiment le moment, mais bon, en même temps, s'il essaie pas, il saura jamais. Allez, elle s'enfuit, mais là, peu! Une bonne patate de forain dans la gorge. Et quand on l'est mise par Stone Cold Steve Austin, je peux vous dire que même Sylvester Stallone, il a s'en passé. Il avait déjà failli se faire rétamer la tronche par Hulk Hogan dans Rocky 4, mais là, c'est encore pire. Ils sont pas sur un ring, il y a pas de règles. Et Barney Ross, il est en bien mauvaise posture. Mais heureusement, ses potes arrivent, et là, c'est la baston. On a enfin une séquence de fight qui envoie du lourd. Et ce qui est cool, c'est que chacun a son style. Stallone et Austin, c'est du catch en mode bulldozer. Statham, c'est la rapidité des couteaux. Jet Li et Gary Daniels, c'est les arts martiaux purs et durs. Et Randy Couture, c'est de la lutte et du MMA avec des prises un peu typiques, tu vois. Il manque plus que Sylvain Durif et là on est bon, là on a les Avengers. Bon, tout le monde s'en sort bien évidemment, il y a que Barney qui galère. Hein. En même temps, quand t'as un mec d'1m93 et 125 kg qui te fonce dessus comme ça. Voilà, donc bah là écoute, hein, on va regarder les prix, hein, on va se renseigner, on va essayer d'en prendre un quand même confortable parce que bon, on va pas pouvoir se lever tout de suite. Hein. Bon là c'est la merde, ils se font encercler par tout le monde, il y a de plus en plus de méchants, il y a plus d'issue. Mais heureusement, on a gardé le meilleur pour la fin. Hail César arrive et fait parler la poudre et bla. Il te nettoie tout ça en moins de 2. De quoi rendre jalouse toutes les femmes de ménage du monde. Bon, par contre, là, il y va à fond et ça laisse plein de traces rouges.
Titre.
Non, mais là, c'est quand même dégueu.
Et c'est à l'image du film. Bon, ça chauffe entre le général et Monroe, tandis que les autres sont pris au piège. Ça commence à sentir sérieusement le sapin. Et en même temps, c'est bientôt Noël. Et là, peu, Monroe shoot le général. Ce pauvre général tout gentil qui avait jamais fait de mal à personne. Bon, il avait peut-être tué quelques civils par-ci par-là, mais bon, c'est pas grand-chose, tu vois. Je veux dire, c'est le boulot d'un général. C'est comme à la chasse, tu vois. Il régule la population. Et là, pour nos gars, ça chauffe de plus en plus, c'est donc le moment de faire tout péter. Et pouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu On sait que c'est eux, on reconnaît bien le style. Et c'est parti ! L'assaut final ! Le clan sort de sa grotte !
Alors là, c'est une séquence, la séquence finale, qui va durer au moins 10 minutes. Il va y avoir à peu près 8000 morts. Niveau mise en scène, c'est un peu mieux, même si on voit quand même pas grand-chose. C'est vraiment relou, hein. Ils ont fait exprès de tourner dans l'ombre comme ça, y a pas de lumière, on voit presque rien, quoi.
Bah après, c'est sûr que pour eux, ça les arrange, hein. C'est toujours comme ça, hein. Ils peuvent tricher en montrant beaucoup moins.
Mais pour nous, c'est chiant, parce que du coup, bah, on en voit beaucoup moins aussi. Allez, toute l'armée est décimée, il reste le boss de fin et surtout son bodyguard, le Rocher Froid. Et là, parmi les Expendables, on se pose tous la même question.
Mais qui va s'en charger?
Et c'est Mr. MMA, aka Randy Couture, aka Toll Road, aka l'oreille en chou-fleur qui s'y colle. Et là, encore une fois, c'est un combat assez cool. Alors évidemment, pour beaucoup de monde, c'est juste un combat comme les autres entre deux taureaux bien tarés. Mais pour les fans de sport de combat, c'est un petit fantasme qui est en train de se dérouler sous leurs yeux. Et c'est justement là tout l'intérêt du film. Il y a des gens là, devant cette scène, ils étaient ultra fans. Hein les mecs? Eh, vous savez de qui je veux parler? Vous là, tous les abrutis qu'on voit, là, vous payez une fortune pour être au premier rang. Là. Ah bah je suis sûr qu'en voyant cette scène, vous êtes tous évanouis. Hein.
Dites donc, vous faites une belle bande de nouilles, vous. Hein.
En vrai, je dis ça, mais si ça se trouve, je serais hyper fan d'être là-bas, je serais carrément à fond aussi, quoi. Parce que le chef des nouilles, c'est moi. Allez, Toll Road balance Payne dans le feu. Il va réchauffer le caillou. Et il l'achève en lui faisant un...
Oh, you can...
Allez.
Salut mon pote.
Il ne reste plus que Monroe qui s'enfuit avec Sarah, mais il n'ira pas très loin. Déjà parce qu'ils sont sur une île, donc à un moment donné, bah tu peux pas aller plus loin, il y a de l'eau, tu peux plus avancer. Et surtout parce que Barney Ross est là. Et même avec une balle dans l'épaule, il va quand même tirer plus vite que son ombre et Les Christmas étaient là aussi et lui envoie son cadeau de Noël. Monroe se fait flinguer et planter en même temps. Et ça, c'est une très jolie mort. Un peu comme elle d'ailleurs. Et voilà, tout est bien qui finit bien, tout le monde peut rentrer à la maison. Et Barney doit dire au revoir à Sarah. Voyez donc, est-ce que j'ai le droit à une petite compensation ou pas là? Oui d'accord, je t'envoie une carte postale. Mais c'est nul ça, moi je veux autre chose. Un magnète pour ton frigo? Bon ok, c'est bon, j'ai compris, je me casse. Ah mais je vous l'avais dit, non, mais il se faisait trop de films, elle est pas intéressée. Elle veut des petits jeunes, elle veut de la chair fraîche. Elle veut des mecs comme moi, tu vois.
41 ans. Hein.
Chut. Allez, tout le monde se retrouve pour la scène de fin dans le bar. C'est une super scène de franche camaraderie dans une ambiance chaleureuse et bon enfant. Gunner est de retour dans l'équipe, et oui, il a été réintégré, le grand blondinet. Bon alors là, inutile de dire que je vous passe les dialogues, hein. C'est du grand Shakespeare.
Comment ça va? Bien. Je te pardonne.
Ok.
Ah, je vous ai dit, là, ce sont des vrais rôles de composition. Hein. Niveau dialogue, Quentin Tarantino n'a qu'à bien se tenir. Tout le monde se marre, l'équipe est au complet. Et Christmas balance sa dernière lame, et joyeux Noël! Et fin! Et voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur le film The Expendables. Un film qui a marqué le cinéma d'action des années 2010, en réunissant pour la première fois à l'écran les grandes icônes des films musclés des années 80-90. C'est un film qui a aussi essayé de relancer une sorte d'esthétique un petit peu old school, avec des cascades et des combats bien bourrins et bien physiques. Les scènes d'action, les explosions, les dialogues à la con, tout est assumé et décomplexé. Exactement comme moi. Ce qui a beaucoup contrasté évidemment avec les blockbusters de l'époque, beaucoup plus propres et tout numériques. Et je peux déjà vous annoncer que l'année prochaine, je ferai le 2. Allez, avant de vous quitter, je vous parle deux secondes du nouveau livre d'un ami. Il s'appelle Théo, il a une chaîne YouTube du nom de Balade Mentale.
C'est un bon livre?
Très mauvais, quelle importance?
Non, il est pas mauvais du tout, bien au contraire. C'est un très beau livre qui n'est d'ailleurs pas un livre mais une bande dessinée. Voyage dans l'infiniment grand. C'est une très jolie bande dessinée qui nous parle de l'infini. De l'immensité qui nous entoure et des distances hors normes qui nous séparent des étoiles et d'autres mondes mystérieux. Avec cette bande dessinée, vous embarquez pour un voyage dans les profondeurs abyssales de l'espace infini, dont l'immensité défie votre imagination. Il y a des jolis dessins, il y a un petit peu de texte, mais pas trop, hein. Parce que disons que Théo, c'est vrai que c'est pas tellement un youtubeur à texte. Ça plaira à tout le monde, petits et grands, et ici, ça a plu à mon fils et à moi. Je vous mets le lien en description si vous êtes intéressé. Pour Noël, pensez-y. Allez, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. La prochaine vidéo arrive dimanche prochain. C'est un film de Noël. Et oui, j'ai trouvé un film de Noël, vous allez kiffer. En fait, c'est pas vraiment un film de Noël. C'est même pas du tout un film de Noël. Si je vous dis ça, vous ne penserez pas à Noël. Mais il se trouve que j'ai découvert que c'est un film qui se passe pendant les périodes de Noël. Et pour moi, il en fallait pas plus. Un petit indice s'affiche au bas de votre écran. Allez, portez-vous bien et à très vite pour un prochain épisode. C'était Han Solo sur 12 Parsec. Ciao.